L'évangile et les idées reçues, ou qu'est-ce que la foi peut nous dire sur notre culture et sur ces expressions populaires qu'on utilise souvent, un petit peu comme des idées reçues. Et aujourd'hui, c'est donc le troisième et dernier épisode de cette mini-série « L'évangile et les idées reçues » et ces expressions qui commencent par « dans la vie ». Et on va pas sauter le rappel, vous savez, comme dans les séries, le rappel des épisodes précédents, même si on est peut-être impatient de regarder l'épisode du jour. Mais on se souvient qu'il y a 2 semaines, le premier épisode portait sur l'expression « dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite » et sur la grâce de Dieu comme réponse à cette culture du mérite absolu. Et puis dimanche dernier, le deuxième épisode portait sur l'expression « dans la vie, il faut se battre » et puis sur la paix de Dieu comme réponse à cette culture de la réussite absolue. Et dans la continuité de ces 2 premiers épisodes, je vous propose aujourd'hui de méditer ensemble sur l'expression « dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut ». Dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et justement, quand on n'a pas ce qu'on veut, quand on n'a pas ce qu'on voudrait, ce qu'on aimerait, et un bel exemple biblique de ne pas avoir ce qu'on veut, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Lazare. Lazare est pauvre, si pauvre qu'il n'a pas de logement, rien à manger et presque pas d'habits. En plus, il est malade, il est seul, sans famille ni amis. Et pour Lazare, son seul moyen de survivre, c'est d'attendre que quelqu'un pense à lui et lui donne quelques miettes de pain. Et je vous propose de regarder à 4 situations de quand on n'a pas et de ce que ça peut impliquer dans notre quotidien, mais aussi de voir ce que l'Évangile, ce que Dieu nous apporte comme réponse. Alors, première situation, quand on n'a pas ce qu'on veut et qu'on n'a pas de moyens physiques. Autrement dit, des situations où le physique ne fonctionne pas aussi bien que chez les autres ou plus aussi bien. On pense au handicap, à la maladie, mais on pense aussi aux phases de la vie, au fait d'être encore un enfant ou d'être une personne plus âgée. Et puis, on peut penser aussi aux différences physiques, tout simplement, les questions de taille, de poids, de souplesse. Alors, que faire quand on n'a pas de moyens physiques? Que faire si ce n'est prier? Si ce n'est de se résoudre, finalement, à ne pas être rancunier envers celui qui a une excellente forme physique? Que faire si ce n'est d'espérer au retour du Christ qui marquera la fin totale, définitive, de toute souffrance et de toute infirmité? Que faire, finalement, si ce n'est de recevoir l'amour du Christ? Cet amour qui ne regarde pas à nos défauts physiques, qui ne conditionne pas son amour à notre apparence, à notre âge ou à notre fatigue. Lazare n'avait pas de moyens physiques. Il était mal nourri, couvert de plaies, très faible, et pourtant, Lazare a eu droit à la consolation de Dieu. Deuxième situation, quand on n'a pas ce qu'on veut et qu'on n'a pas de moyens financiers. Les situations où l'argent manque, où les fins de mois sont difficiles, où on souffre de ce qu'on ne peut pas donner à nos proches, à nos enfants, mais aussi les situations plus dramatiques, où on n'a pas de toit, pas de quoi manger. Alors que faire ? Que faire là encore si ce n'est prier, si ce n'est de se résoudre à ne pas vivre dans un état de jalousie permanent? Que faire si ce n'est de chercher à vivre dans le contentement? Que faire si ce n'est d'espérer au retour du Christ qui, là, marquera la fin totale et définitive de tout manque et de toute pauvreté? Que faire si ce n'est de recevoir l'amour du Christ, de recevoir cet amour qui ne regarde pas à nos manques, qui ne regarde pas à notre pauvreté, qui ne conditionne pas son amour à nos salaires ou à notre compte en banque. Lazare, lui, n'avait aucun moyen financier. Il vivait dans une pauvreté extrême. Et pourtant, Lazare a eu droit à la consolation de Dieu. Troisième situation, quand on n'a pas ce qu'on veut et qu'on n'a pas de moyens affectifs. On peut le comprendre de deux façons, le fait de ne pas pouvoir donner de l'affection et le fait de ne pas pouvoir en recevoir. Et qui dit affection dit relation, dit autre personne, ça peut être un parent, un conjoint, un enfant, un ami. Mais quand on n'en a aucun, quand on est seul et qu'on ne peut ni donner ni recevoir de l'affection, ou bien quand le proche qui devrait nous donner de l'affection fait le contraire. Que faire si, là encore, ce n'est prier, si ce n'est d'espérer, là encore, au retour du Christ, qui marquera la fin totale, définitive, de toute solitude et de tout manque d'affection. Que faire si, malgré tout, si ce n'est de tenter de donner quelque peu d'affection, quand on en reçoit peu, et même si c'est difficile, c'est vrai. Et que faire si ce n'est de recevoir l'amour du Christ qui ne regarde pas notre solitude et qui ne conditionne pas son amour pour nous à l'affection qu'on donne ou qu'on reçoit. Lazare, il ne recevait aucune affection. Il ne pouvait lui-même pas en donner, il en était bien incapable. Et pourtant, il a eu le droit à la consolation de Dieu. Une dernière situation, quand on n'a pas ce qu'on veut et qu'en plus on a de l'opposition. Qu'en plus on veut nous empêcher intentionnellement d'avoir ce que je veux. C'est dur d'avoir de l'opposition et c'est dur de se faire accuser ou mettre la pression faussement. Alors là aussi, là encore une fois, que faire si ce n'est de prier, d'espérer au retour du Christ, de recevoir l'amour du Christ qui ne regarde pas au degré d'opposition subi, mais qui regarde à l'être humain que nous sommes tous avec amour. Lazare, lui, a eu de l'opposition puisqu'il n'a même pas eu le droit de manger les miettes qui tombaient de la table, et pourtant, il a eu droit à la consolation de Dieu. Alors, cette expression « on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie », elle paraît quelque peu vraie. Mais il faudrait pas qu'on s'arrête là. Et on va continuer en parlant des fois où ça peut arriver d'avoir ce qu'on veut. Des fois où l'on a. Et un bon exemple biblique sur le fait d'avoir ce qu'on veut, d'avoir même tout ce qu'on veut, c'est un roi qui s'appelait Salomon. Ce roi le plus grand, le plus riche, le plus sage, le plus irénique de toute une histoire, un roi exceptionnel, d'un point de vue politique, moins d'un point de vue moral. Alors on va reprendre nos quatre situations qu'on vient de voir, de quand on n'a pas, et voir si ça change quelque chose quand on a. On se rappelle de la première situation, quand on a ce qu'on veut et qu'on a des capacités physiques. Quand on n'a aucun problème de santé, quand on est en pleine forme. Que faire quand tout va bien? Que faire si ce n'est finalement d'être reconnaissant, d'avoir une bonne santé? Que faire d'autre si ce n'est d'utiliser notre bonne santé et notre corps pour aider celui ou celle qui n'en a pas? Le roi Salomon a utilisé sa bonne santé pour faire la paix avec ses voisins, au contraire de ce que son père David avait fait, puisque lui avait sans cesse fait la guerre. La deuxième situation, sur les capacités financières, quand le compte en banque est rempli, quand on a ce qu'il faut pour bien vivre, voire plus, que faire si ce n'est d'être reconnaissant, d'avoir ce qu'il faut pour vivre? Que faire si ce n'est de résister à toute tentation de cupidité, de toujours en vouloir absolument plus, et même si c'est au détriment d'autres choses importantes comme notre famille, notre intégrité, notre honnêteté, notre rapport aux autres, tout simplement? Et que faire, finalement, si ce n'est d'utiliser notre argent, notre surplus, pour aider celui ou celle qui en a moins? Que ce soit au loin, quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais aussi auprès, celui qui est à côté de nous. Savoir partager quand on a est aussi une valeur biblique essentielle. Et elle permet peut-être de répondre aussi à cette culture de la réussite dont Eric a parlé il y a 2 semaines. La réussite, oui, mais pourquoi et à quel prix? Et le roi Salomon, lui, était extrêmement riche. Alors, on n'a aucun moyen de le comparer avec les hommes les plus riches du monde d'aujourd'hui, comme Jeff Bezos ou d'Amazon ou Elon Musk. Mais ce qu'on sait, c'est que malgré cette richesse, alors que Salomon, lors d'un dialogue intéressant avec Dieu, pouvait avoir encore plus de richesse, encore plus de pouvoir, Salomon demande à Dieu de la sagesse pour pouvoir gouverner son peuple et son pays de façon juste. Et vous le savez, en ce temps de politique internationale instable, elle est un petit peu toujours instable, où les nationalismes grimpent en popularité et où les autres prennent peur concernant les plus faibles, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont justement besoin de justice, eh bien on peut penser à nos dirigeants. On peut penser à nos dirigeants et prier pour eux pour qu'ils soient plus enclin à chercher la sagesse et la justice plutôt que la sécurité de la richesse et du pouvoir. Concernant les capacités affectives, quand on n'a pas de difficulté à montrer notre amour et quand tout le monde nous aime, que faire avec cet amour débordant? Que faire si ce n'est d'être reconnaissant, de pouvoir aimer et d'être aimé si facilement? Que faire si ce n'est d'utiliser notre amour envers l'autre, envers celui qui est facile à aimer, mais aussi envers celui qui n'est pas facile à aimer, celui qui est différent de nous? Et le roi Salomon, en termes d'affection, il n'a pas toujours été au top, notamment parce qu'il a fait tuer son frère, par exemple, entre autres. Quatrième situation, quand on a ce qu'on veut et qu'on n'a pas d'opposition. Autrement dit, quand tout roule, quand rien ne nous gêne pour avancer sur notre chemin de vie, eh bien, être reconnaissant que tout aille bien, se souvenir et profiter de ce temps pour cultiver la paix autour de nous, et de profiter d'avoir les mains libres pour se donner pour notre prochain, pour ceux qui ont besoin, et pour aider ceux qui ont de l'opposition, et pour aider ceux qui sont dans l'opposition. Et le roi Salomon, on l'a dit tout à l'heure, au contraire de son père, il n'a eu aucune opposition pendant tout son règne. Peut-être était-ce parce qu'il a privilégié la paix à la guerre. En tout cas, il en a profité pour s'occuper de son pays, de sa capitale et du temple qu'il a construit pour Dieu. Alors c'est vrai, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, et en même temps, ça arrive à certains et à certaines périodes ou dans certains domaines de notre vie d'avoir peut-être pas ce qu'on veut, mais au moins ce dont on a réellement besoin. Alors vous connaissez la fameuse réplique de Shakespeare dans Hamlet, to be or not to be, c'est là être ou ne pas être, c'est là la question que j'ai volontairement transformée, avoir ou ne pas avoir. J'ai l'impression que l'apôtre Paul, cet homme d'église, vous savez, du premier siècle, nous donne une réponse étonnante à cette question, avoir ou ne pas avoir, lorsqu'il écrit à l'église de Philippe, en Macédoine, pour les remercier de leur soutien. Et nous lisons « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, car vous avez enfin manifesté de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez déjà, certes, mais vous n'aviez pas l'occasion de me le montrer. Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que je sois rassasié ou affamé, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mes détresses. » Alors, à votre avis, après ce petit parcours qu'on a fait ensemble sur quand on n'a pas et sur quand on a, qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Avoir ou ne pas avoir ? Et dans l'extrait de la lettre qu'on vient de lire, Paul veut montrer à ses lecteurs qu'il a, grosso modo, connu toutes ces situations, d'un côté et de l'autre. Il a été en bonne santé, et puis il a eu une vue qui baissait, les jambes arquées qui rendaient sa marche pénible. Paul a grandi dans une famille riche, puisque son père avait eu suffisamment d'argent pour acheter la citoyenneté romaine. Et puis Paul a aussi connu la pauvreté, ou en tout cas le manque du nécessaire. Peut-être pendant ces 3 ans qu'il a passé à l'est du Jourdain après l'épisode de Damas. Paul, au temps où il écrivait ses lettres, était probablement veuf. Il avait connu l'affection, puis l'affliction de devoir poursuivre son chemin de vie seul. Et puis, Paul a connu des périodes où rien n'arrêtait sa passion, sa foi et sa détermination à servir Dieu, mais il a aussi connu la prison, le fouet, la lapidation, beaucoup d'opposition. Et alors qu'il a vécu le fait d'avoir et de ne pas avoir, que dit Paul ? J'ai appris à me contenter toujours de ce que j'ai, que ce soit très peu ou que ce soit beaucoup. Et en lisant ça, j'ai l'impression qu'il faut écarter toute tentative d'idéalisation de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire qu'on pourrait être tenté de dire « c'est bien mieux d'avoir ». Parce que comme ça, quand on a, on peut mieux partager, on peut mieux aider l'autre. Peut-être même qu'on pense que avoir, c'est logique si on est chrétien. Et puis de l'autre côté de la pendule, on pourrait penser avec un petit peu de fatalisme que finalement ne pas avoir, ça évite beaucoup d'ennuis. Et puis ne pas avoir, c'est s'éviter beaucoup de tentations. Et puis ne pas avoir, ça permet d'être plus dépendant de Dieu. Peut-être là aussi des idées reçues. Et vous me direz qu'il y a peut-être une troisième voie. Certains diront une voie normande, celle du ni-ni, ni l'un ni l'autre. Peut-être que ni avoir ni ne pas avoir, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais souvent, quand on pense comme ça, on rajoute une petite clause au contrat, un petit peu comme une petite astérisque avec une toute petite note de bas de page tout en bas, où il est écrit « Ok, je veux bien ne pas avoir, ou je veux bien avoir, mais je veux pas avoir trop, mais au moins juste ce qu'il faut. » Mais juste ce qu'il faut, c'est déjà avoir, en fait. Quelque part, on voit là qu'on est dans une impasse. Une impasse dont l'Évangile, dont le Christ, veut nous sortir. Et c'est ce que Paul essaie d'exprimer dans sa lettre à l'église de Philippe. Et le moyen de sortir de cette impasse, pour Paul, serait le contentement. Un contentement qui n'est pas une satisfaction bête et forcée, mais plus une attitude d'acceptation, de grâce et de foi en Dieu, qui permet de vivre les périodes où l'on a et les périodes où l'on a moins. Et si c'est souvent plus facile de vivre l'abondance que le manque, C'est justement là ce que la foi en Dieu change. La foi en Dieu nous vient en aide et nous donne quelque part la fondation sur laquelle on peut s'appuyer pour vivre aussi bien dans l'abondance que dans le manque. Sans dire pour autant que ça sera facile. Dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Alors, on a beaucoup parlé du fait d'avoir ou de ne pas avoir, mais dans cette expression populaire, il est aussi question de volonté, de ce qu'on veut. Et là, quand on parle de volonté, on parle de la volonté de Dieu, bien sûr, mais aussi de la volonté de l'être humain, de chacun d'entre nous. Et on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que moi, petit être humain que je suis, avec mes manques, qu'est-ce que j'ai à dire sur ma vie ? Je ne fais pas le poids face à Dieu. C'est quelque part à lui de décider tout, de tout, tout le temps. Mais le problème de penser comme ça, c'est de négliger un des principes fondamentaux de la création. Dieu nous a créés, nous les êtres humains, en nous rendant capables d'agir et de penser pour nous-mêmes. D'être capables de remplir notre mission en tant qu'intendant de la terre. D'être capables de choisir ce qui est bon pour la terre. Mais c'est pas toujours ce qu'on voit aujourd'hui. Et pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu, s'il nous a créés avec le choix de l'accepter comme Dieu, eh bien malheureusement, l'être humain n'a pas fait ce choix. L'être humain a fait le choix de vouloir se prendre lui-même pour Dieu. Et il a perdu beaucoup. Mais heureusement, Dieu a pourvu une solution. Et on peut se dire aussi, « Ok Seigneur, tu as tout créé, nous on t'a rejeté, mais maintenant, c'est quoi ta volonté ? Qu'est-ce que tu veux pour l'être humain ?» Et Matthieu, un des 12 disciples de Jésus, nous raconte que Jésus, en partant d'une parabole, d'une histoire qu'il racontait, disait en parlant d'un roi comme de lui-même, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli chez nous, ou nu, et t'avons-nous habillé ? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous venus te voir ?» Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voilà une façon dont la Bible, dont le Christ lui-même, nous parle de la volonté de Dieu pour l'être humain. C'est quelque part comme une éthique qui nous guide sur un chemin, mais en nous montrant la direction et pas tellement les routes exactes à prendre. Celles-là, elles vont dépendre de nous et de notre créativité qu'on va mettre en place pour les prendre, tout en regardant cette direction à atteindre. Mais c'est vrai que on aimerait des fois que Dieu soit un peu comme notre GPS. Alors sans la voix qui dit très fort « faites demi-tour hein », au rond-point souvent. Non, pas comme ça, mais au moins un GPS qui nous indiquerait clairement la route à prendre, qui nous indiquerait clairement quelle sortie du rond-point prendre. Ou, vous savez, les sorties d'autoroute, des fois compliquées, là, deux sorties à la suite, à 100 mètres l'une de l'autre, et on ne sait jamais laquelle prendre. Mais tout de même, si Dieu n'est pas un GPS, on peut lui demander son aide lorsqu'on a un choix de vie à faire, un choix de route difficile à prendre. On peut se mettre à son écoute, et on en a pas mal parlé ici dans l'église en automne, se mettre à l'écoute de Dieu. Dieu est un Dieu de relation, un Dieu qui aime parler et qui aime qu'on lui parle et qu'on parle de lui. Et sans teasing, c'est d'ailleurs le titre de ma prochaine prédication dans 2 semaines. Alors oui, la volonté de Dieu, elle est à la fois simple à saisir, pour donner une direction à notre vie personnelle, mais aussi communautaire en tant qu'Église, et à la fois difficile, pas toujours simple à écouter, à entendre, à discerner. Et pourtant, cette direction, cette éthique lointaine que Dieu nous donne, elle est souvent de bons conseils pour choisir quelle route emprunter sur ce chemin de la vie. Et Paul en a parlé avec les vertus tout à l'heure. Alors dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et comme dans chacune des 3 expressions populaires dont on a parlé ces 3 derniers dimanches, eh bien il y a une part de vérité et il y a une part de faux, d'idées reçues. Et si on regarde avec les lunettes de l'Évangile, de la foi chrétienne, et si pour l'expression « dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite », la première, la grâce de Dieu est la réponse à cette culture du mérite absolu, si pour l'expression « dans la vie, il faut se battre », la paix de Dieu est la réponse à cette culture de la réussite absolue, alors pour l'expression « dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut », c'est bien l'amour de Dieu inconditionnel qui est la réponse à cette double culture de la fatalité absolue d'un côté et puis de la cupidité absolue de l'autre. Alors qu'on soit dans l'abondance ou dans le manque, Dieu nous aime. Il ne nous aime pas en fonction de tous ces critères dont on a parlé, mais il nous aime parce que nous sommes, chacun d'entre nous, ses créatures. Amen.